Sur celui-là?
Voilà. Bien. Merci.
Bien. Vous comprendrez aisément que de résumer une pareille journée est extrêmement difficile et même totalement irréalisable.
C'est terminé.
Je voudrais d'abord revenir sur la conférence de Alexandre Tarieux, qui m'a toujours étonné parce que tout au long de cette conférence, il a essayé d'établir le fait que la science-fiction était exclusivement basée sur l'innovation scientifique. Parce que finalement, une grande partie de Jules Verne ne correspond absolument pas à cette exploration. Et donc, je ne sais pas pourquoi il a voulu absolument assimiler le fait que Jules Verne ait ou n'ait pas été un inventeur sur le plan scientifique. Et par là, il essayait de prouver que Jules Verne n'écrivait pas de la science-fiction, mais écrivait quelque chose d'autre que certains définissent sous diverses appellations. Personnellement, Jules Verne, c'est quelqu'un qui est très éloigné de moi, et j'y suis revenu récemment parce que il se trouve que je n'ai pas lu Jules Verne avant l'âge de 15-16 ans. Je ne sais plus exactement pour quelle raison, sans doute parce que ses livres se rattachaient à la littérature pour la jeunesse et que très tôt, je me suis intéressé d'abord à la littérature pour adultes. Et à cet âge, je n'avais aucune idée de ce que Hugo Gernsback a nommé science-fiction, parce que je n'avais pas l'occasion de me procurer des pulps, d'en lire avant-guerre, bien que j'existais, mais enfin, j'étais encore tout petit. Et parce que, alors que mes amis Bergier, Gallet, Pilotin et d'autres que j'ai rencontrés à la librairie de la Balance par la suite ont longuement lu de la science-fiction américaine. Et moi, personnellement, je lisais au contraire René Aîné, Jacques Spitz, Maurice Renard, Barjavel, Wells, et qui pour moi était la référence ultime, et pour moi, Wells était la science-fiction, et à partir de là, je pensais que tous les autres auteurs avaient été des prolongateurs du travail de Wells. D'ailleurs, à l'époque, je prenais toujours à la bibliothèque des livres dans lesquels des mots, à la bibliothèque municipale du coin, dans lesquels les mots temps, lune, espace étaient présents dans le titre. Et c'est pour ça que, inconsciemment, j'étais totalement attiré par cette idée d'un développement de l'humanité à travers les inventions qu'il y allait avoir par la suite. Bien sûr, j'ai eu une énorme déboire parce qu'évidemment, il y a une quantité de livres où le mot lune, temps, espace ne correspondent à rien. Mais j'ai accumulé en moi une culture particulière qui m'a préparé à accueillir la science-fiction telle que je l'avais ressentie avant que le mot n'existât en France. Donc alors, il se trouve que le premier livre de Jules Verne que j'ai lu s'appelait « L'île mystérieuse ». Là, j'avais donc environ 16 ans, et c'est à partir de là que je me suis fait une idée de Jules Verne tout à fait personnelle, en ce sens que l'île mystérieuse est apparue comme véritablement fondateur d'une science-fiction totalement inventive, alors que théoriquement, on ne le considère pas comme un livre de science-fiction, sauf qu'il y a l'apparition du capitaine Nemo à la fin. Mais j'ai trouvé que cette reconstruction d'une société qui était faite à partir d'un grain de blé que le personnage principal redécouvrait dans sa poche, et donc tout ce qui s'en suivait d'invention progressive, était véritablement quelque chose de tout à fait initiateur et qui amenait véritablement l'idée qu'on pouvait écrire des livres dans lesquels justement l'invention humaine accompagnait le temps, accompagnait l'avenir et forger l'avenir. Alors, si on peut être séduit des sans-pigeonnaires par cette littérature qui coïncide avec une aspiration légitime vers l'avenir, il me semble néanmoins qu'on l'apprécie d'autant plus qu'on l'avance en âge. Je dis ça parce que, bon, tout le monde sait aujourd'hui que j'ai 80, bientôt 4 ans, et donc j'ai pu voir, moi personnellement, justement, le monde évoluer et voir comment on est parti d'une époque où peu de choses existaient. J'ai quand même vu découvrir la bombe atomique, le laser, la machine lavée, qui a été très importante, la pénicilline, la télévision, le téléphone portable. Et donc, je suis devenu un être de science-fiction au fur et à mesure que j'ai avancé en âge. Et je crois que c'est par là que j'ai accompagné un peu Jules Verne dans son expérimentation, parce que, effectivement, ce sont des choses qui étaient latentes aussi bien par des scientifiques qui avaient plus ou moins prédit que ces choses-là existeraient un jour, que par des auteurs de science-fiction, comme je le rappelais tout à l'heure, le logique nommé Joe de Murray Leinster, qui en 1950 montrait comment l'ordinateur allait envahir l'espace de nos sociétés actuelles. Et Jules Verne, justement, a amené cette chose extraordinaire qui a été reprise par d'autres auteurs, mais le problème fondamental, c'est qu'il existe des science-fiction. Et lorsqu'on essaye de dire que Jules Verne n'est pas ou est de la science-fiction, c'est qu'on ne s'attache qu'à un aspect de la science-fiction. Parce que tout le monde sait bien aujourd'hui, d'une part, tout à l'heure, vous montriez tout à l'heure dans le livre de Grishka et Igor Bogdanov, l'effet science-fiction, comment les gens recevaient la science-fiction comme d'abord un mouvement de terreur par rapport à l'avenir, pour la plupart des gens qui répondaient aux questions, et en même temps, chez certains, un véritable essor vers cette littérature qui amenait véritablement quelque chose de différent par rapport à tout ce qui avait existé auparavant. Et je parle de la science-fiction moderne. Parce que je rappelais tout à l'heure que pour Pierre Versin, par exemple, qui a écrit le premier ouvrage important sur le sujet, le fait que quelqu'un en 1512 inventait un vélo, le roman devenait un roman de science-fiction. Ce qui prouve quand même qu'il y a quelque chose d'un peu différent par rapport à ce que peut-être aujourd'hui la science-fiction moderne, qui est si complexe et qui se multiplie et qui s'étale et qui se répand même dans la littérature générale. C'est pourquoi Jules Verne, qui a certes prélevé dans la technologie naissante des idées pour écrire des romans où il spéculait sur leur devenir, m'apparaît aujourd'hui comme non pas l'inventeur, mais un des véritables initiateurs de la science-fiction moderne. Si l'on considère que celle-ci, selon sa définition la plus récente, est une manière d'interroger l'avenir en termes de présent et vice-versa. Un roman comme L'île à hélice, par exemple, m'apparaît totalement en phase et avec 100 ans d'avance sur un modèle du genre, puisqu'il préfigure à la fois les constructions délirantes qui s'édifient dans les États du Golfe, par exemple, où véritablement on essaie de construire des îles à hélices, et les désastres auxquels aboutissent les utopies des milliardaires. Parce qu'il faut bien oublier que chez Jules Verne, il y avait quand même, en plus de cette effervescence vers l'avenir, un pessimisme profond qui se matérialise dans un grand nombre de ses romans. Donc ce que je voudrais peut-être vous lire, puisque finalement j'ai écrit un livre qui a écrit un article il y a quelques années, qui représente à peu près ce que je pense sur Jules Verne et sur ses rapports avec la science-fiction, sur les rapports que les Verniens ont avec la science-fiction et le rapport que j'ai moi-même avec Jules Verne et la science-fiction. Donc voici ce que j'écrivais à l'époque où le centenaire de Jules Verne était arrivé et que ses œuvres étaient tombées dans le domaine public. C'est à ce moment-là que sont apparus les premiers symptômes de l'épidémie. Et il y avait plus de 100 ans, Jules Verne est mort, vive Jules Verne. La première thèse parue à son sujet en Allemagne, alors que théoriquement, notre ami chinois nous a dit qu'en 1903, il y avait déjà un écrivain chinois qui avait écrit sur le sujet, est paru en Allemagne en 1916. La seconde, aux États-Unis, en 1953. parle d'études fondamentales. Et déjà, le premier numéro des archives Jules Verne, qui était fait par Daniel Compère et son ami, recensait, rien qu'en France, en 1973, 200 textes divers publiés depuis 1966. Donc déjà, en quelques années, 200 textes avaient été publiés sur Jules Verne. Le numéro 3 de cette même revue, des archives Jules Verne, en comptabilisait plus de 147 pour la seule année 1976 sur l'ensemble de la planète. Cette allure qui ne s'est jamais ralentie depuis, un inventaire exhaustif des textes, mémoires, études, colloques, biographies, bibliographies parues au sujet de Jules Verne dans le monde entier est difficilement chiffrable à la fin de cette année. La courbe me semble entendue puisque cette production inflationniste signe le succès impérissable de l'auteur de 20 milieux sous les mers et surtout sa transformation profonde en auteur pour la jeunesse, en un auteur fondateur d'une littérature qui aujourd'hui a envahi la planète et même non seulement en tant que concept, puisque finalement dans tout ce qu'on peut appeler aujourd'hui la publicité, les objets quotidiens, la science-fiction est présente en permanence dans tous les moments de notre vie. Alors tout se mêle à écrire des textes sur Jules Verne. Alors il y a d'abord les Verniens, dont nous avons vu un exemple tout à l'heure, qui investissent de la pensée du maître, la portent en eux tel le Saint Graal. Même s'ils s'attaquent fielleusement entre eux par des articles, des colloques interposés, afin de discuter des sources et d'analyser le sens de l'œuvre à perte de vue. D'abord, on peut distinguer les vernophiles, ce sont des amateurs qui se complaisent à collectionner des documents, des manuscrits, des éditions rares, des pièces de théâtre, des textes et produits, des textes oubliés, des produits dérivés des voyages extraordinaires, afin d'établir des listes exhaustives dont nul ne verra jamais le terme. Enfin, les vernolâtres, qui sont arc-boutés sur leur doctrine et qui discutent pied à pied au sujet de la virgule disparue d'un manuscrit au crayon, ensuite passée à l'encre, tout le monde sait que Jules Verne écrivait tout au crayon et repassait à l'encre, son fils d'ailleurs ne s'est pas privé d'après d'écrire autre chose à la place de Jules Verne. Et alors ce sont des hiérophantes rationalistes d'un corpus qui recèle encore tellement d'inconnus qu'elle réactive en permanence l'appétit de connaître ce qu'est Jules Verne. Cette pléthore d'agiographie critique risquerait de provoquer un jour une réaction hostile, voire des vernifuges. Et si derrière, heureusement, tous les passionnés de Jules Verne et les petits-enfants à qui on offre ses romans parce qu'il est entré dans les mœurs, Idelsitsky à Yokohama et de Nishi Novgorod à Atlanta ne cessent de lire et relire ces voyages extraordinaires dont les versions et les traductions se multiplient à l'infini depuis près d'un siècle et demi, sans être découragés par le style particulièrement uniforme de l'auteur. Mais c'est justement ce style uniforme qui le rend particulièrement accessible à la plupart de nous aujourd'hui. Parce que ce sont des phrases quasi photographiques, un peu comme Wells d'ailleurs, qui avait aussi une écriture extrêmement simple, dans lequel la métaphore est souvent absente, et c'est surtout la description, la vision, la tentation de transcrire immédiatement au lecteur ce que le Jules Verne ressent et ce qu'il essaye de montrer et de définir. Donc c'est à travers ces livres que tous ces jeunes gens et ces gens plus anciens découvre encore cette énergie créatrice, ce vertigineux pouvoir de susciter l'enchantement littéraire que des millions de lecteurs de Jules Verne ont ressenti au moins une fois dans leur vie. Parce que finalement, après tout ce qui a été dit auparavant, il ne faut quand même pas oublier que d'abord, Jules Verne est un écrivain. Et pour moi, je crois que ce qui est le plus important, c'est que la littérature est vraiment l'axe porteur de la science-fiction. Parce que il y a la science-fiction, ce qu'on appelle la sci-fi, c'est-à-dire vraiment le livre d'évasion naturelle que tout le monde peut apprécier, d'ailleurs qu'il m'arrive aussi d'apprécier. Et puis il y a quand même la grande littérature de science-fiction qui a quand même amené à l'intelligentsia internationale véritablement quelque chose de tout à fait nouveau, qui d'ailleurs pénètre à travers toute la littérature du monde, puisque on peut dire qu'un personnage comme Houellebecq, s'il se réclame de la science-fiction, en écrit à peine, mais il en est totalement imbibé. Bien qu'avec le temps, une grande partie de l'œuvre de Jules Verne concerne désormais la description d'inventions qui ont pris le statut d'objet quotidien, de lendemains qui n'auront pas lu et de voyages disponibles chez n'importe quel tour opérateur, bien que ce soit un gigantesque géographe, ces inconditionnels de Jules Verne voient toujours en lui un visionnaire de génie. En cela, je crois que c'est cela que réside le mystère de son inaltérable survie littéraire. Car la qualité de ses œuvres ne repose pas sur l'exactitude de ses prédictions scientifiques. D'ailleurs, la plupart des auteurs de science-fiction les plus connus, ce n'est pas sur l'exactitude de leurs productions scientifiques que repose leur réputation. La science mise en question par la science-fiction ne compte précisément pour rien, affirme Guy Lardreau dans « Fiction philosophique et science-fiction ». Postulat qui, dans son esprit, s'appuie sur le fait que la philosophie ne produit plus aucun texte novateur, contrairement à la science-fiction, littérature pensante, même si elle ne pense pas toujours bien, qui s'y est substituée en détournant le propos de la science afin d'explorer le présent depuis l'avenir. En ce sens, et dans le meilleur des cas, le genre échappe à l'obsolescence. Contrairement à ce qu'affirmait Jim Ballard en soutenant « La science-fiction s'est arrêtée le jour où l'homme a posé le pied sur la Lune », Michel Ardan, en compagnie de Barbicane, s'est contenté de s'approcher de notre satellite sans que les amateurs ne songent à mettre au rebut autour de la Lune. Métaphore fondamentale d'un des plus vieux désirs humains, s'envoler vers l'espace. Et je me souviens très bien qu'au moment où Armstrong avait débarqué sur la Lune, Michel Demuth et moi avions été interviewés par Combat, qui était un journal important qui existait à l'époque, et il nous disait, bon, alors maintenant que Armstrong est atterri sur la Lune, la science-fiction n'existe plus. Et donc Michel Demuth et moi avons dit, au contraire, elle ne fait que commencer. Et le titre de Combat était « Aujourd'hui, la science-fiction commence ». Pourtant, à l'examen des textes publiés à propos des voyages extraordinaires, le point de vue dans l'approche vernienne a profondément changé. Au cours des âges, l'anticipateur, lecteur passionné de François Arago et de Camille Flammarion, le dramaturge, qui est une chose très importante, qui rêvait de créer le roman scientifique avec l'ami Alexandre Dumas, est devenu, contre son gré, un écrivain de divertissement à travers les publications des Ailes, puis un écrivain pour la jeunesse dans la bibliothèque verte, jusqu'aux environs des années 60, où tout a changé, puisque des textes de Roland Barthes, de Michel Butor, de Michel Foucault et bien d'autres produisirent enfin une réaction salutaire, ce qui engendra une prodigieuse nébuleuse sexuelle, comme je le rappelais tout à la fois universelle, érudite et marginale, afin d'aborder l'auteur à travers une vision mythologique, psychanalytique, idéologique, politique, initiatique, épistémologique, en procédant à une analyse structurale et textuelle du récit. Grâce au premier colloque de Sérisy en 1976, Jules Verne ou les sciences humaines, la mise en abîme d'un grand écrivain justement négligé par la critique officielle et dictionnaire de littérature, parce qu'il faut bien dire qu'auparavant il n'y avait pas eu grand-chose, devint au goût du jour. Il en jaillit un véritable enrichissement de nos connaissances à propos de ses thématiques, de sa personnalité contradictoire, à la fois anarchiste et bourgeois, plaisantin parce que c'était un immense amateur de calembours, d'ailleurs Raymond Roussel, qui a été un de ses grands amoureux et un de ses grands suiveurs, a servi de ce calembour pour écrire lui-même une littérature tout à fait particulière. C'était un plaisantin, et en même temps c'était un personnage sévère, un mauvais père, un époux distrait, et un voyageur étonnant, bref, un passeur dans la plus pleine acceptation du terme et si littéralement correct. Avec quelques apogées comme la savante étude lacanienne de Jean-Luc Steinmetz s'appuyant sur deux anagrammes, verge lune et lu génère. À travers ces passionnants travaux d'exagèse se dissimule la mise en question quasi systématique d'un mythe que l'on aimerait voir disparaître définitivement comme s'il était dégradant, celui de Jules Verne considéré comme l'un des créateurs de la science-fiction. Contre-sens ou contre-vérité, qu'importe. Au commencement, même si l'appellation du genre n'existait pas, les commentateurs s'appuyaient sur cette spécificité, surtout les plus grands. Parce qu'il ne faut pas oublier que chez Michel Alterac, dès 1866, alors que Jules Verne faisait ses débuts sous la houlette d'un Hetzel bienveillant et castrateur, après l'apparition de 5 semaines en ballon, Le voyage au centre de la Terre, Émile Zola écrit « Monsieur Jules Verne est un fantaisiste de la science. Il met toute son imagination au service de déductions mathématiques. Il prend les théories et en tire des faits vraisemblables. L'élément dramatique et l'élément scientifique vont ici de compagnie et rien n'égale l'étrangeté des péripéties si ce n'est l'étrangeté des découvertes. » Voilà ce que disait Zola, qui quand même n'était pas un personnage qui était ni pour ni contre la science-fiction. La même année, Théophile Gautier, qui avait lu également ses ouvrages, s'émerveille à propos des Anglais au pôle Nord et du désert de glace, affirmant tout net que les voyages de Jules Verne n'appartiennent pas à la catégorie des voyages imaginaires anciens et modernes, ils offrent la plus rigoureuse possibilité scientifique et les plus osés ne sont que le paradoxe et l'outrance d'une vérité bientôt reconnue. La chimère est ici chevauchée et dirigée par un esprit mathématique. En même temps qu'un grand nombre de ses contemporains, tous deux le proclament, il s'agit d'une véritable révolution littéraire. Donc je pense qu'à ce moment-là, aussi bien Verne que Wells amenaient une révolution dans la littérature. Parce que je pense qu'après toutes les écoles qui avaient existé, la seule qui véritablement amenait une nouveauté par rapport à tous les autres, c'était ce qui s'est appelé par la suite la science-fiction. En même temps, d'ailleurs, qu'un grand nombre de ses contemporains, tous deux le proclament, il s'agit d'une véritable révolution littéraire. Déjà, bien des écrivains avant lui ont usé d'un alibi scientifique pour philosopher, mais c'est la première fois qu'un auteur accompagne la science en mouvement, s'approprie ses méthodes d'analyse et d'expérimentation, pour basculer de l'hypothèse à la conjecture par la fiction spéculative. Je crois que une des grandes erreurs de la science-fiction, c'est de s'être appelé comme ça. Parce que le mot science et le mot fiction sont véritablement détonnants et amènent quelque chose de différent par rapport à ce qui existait auparavant. Mais en même temps, elle est totalement réductrice, puisque dans le mot science, il n'y a chez les gens de l'époque et encore aujourd'hui que ce qui est véritablement scientifique. Et ceci n'est pas en jeu puisqu'il concerne l'évolution de la société tout entière. Toujours à propos du style de ces récits, Gautier et Zola font allusion à Edgar Allan Poe, dont les nouvelles ont été traduites par Baudelaire, 10 ans auparavant. Or, Poe fut visiblement l'un des éléments moteurs du passage à l'acte chez Jules Verne. Dans un long article publié en 1864 dans le Musée des Familles, ce dernier désigne en lui le chef de l'école de l'étrange, qui a reculé les limites de l'impossible, insiste sur le côté matérialiste de ses histoires, son besoin de tout expliquer par les lois physiques. Et voilà un des principes essentiels de la science-fiction, c'est-à-dire arriver à partir d'idées conjecturales par un travail logique à des développements qui sont vraisemblables dans une intemporalité. Il salue en lui, je parle de Verne par rapport à Poe, l'inventeur du fantastique froid. Je crois que l'idée du fantastique froid est une bonne idée aussi de la science-fiction. Il exalte son positivisme, influencé par la société pratique et industrielle des États-Unis. En cela, il fut visionnaire, puisque 60 ans plus tard, c'est dans ce pays que naquit la science-fiction. Gernsback, son inventeur, publia Jules Verne, on l'a vu tout à l'heure, dès les premiers numéros de la revue populaire qu'il fonda, puisque même il y était avant l'invention du mot science-fiction, puisque en 1906, il y avait déjà des textes de Jules Verne dans Amazing. C'est grâce à vous que je l'ai appris. Cela ne fait aucun doute, Jules Verne est l'un des créateurs, ou plutôt l'un des initiateurs de la science-fiction, avec H.G. Wells. Il est donc surprenant de lire aujourd'hui, dans un entretien de Jean-Paul Dekis, que vous verrez bientôt, avec Michel Serres, érudit vernien s'il en est, des commentaires discursifs de ce genre. Voilà ce que disait Michel Serres. Notre ignorance fait de l'œuvre de Jules Verne un rêve de science. Elle est une science des rêves. La fiction des voyages est, dit-on, une science-fiction. Cela est faux tout bonnement. Jamais une règle mécanique n'y est outrepassée. Loin d'être une anticipation, ces romans ne sont pas à la page. Or, dans un autre texte dont je parle dans une de mes nouvelles qui est dans le Nouveau Galaxy, le même Michel Serres disait « C'est absolument effrayant de penser qu'aujourd'hui, dans notre monde contemporain, il n'y ait personne qui pense à l'avenir. Il n'y ait aucun écrivain qui ait jamais véritablement écrit des livres dans l'esprit de Jules Verne. » J'ai trouvé ça absolument extraordinaire, ce qui prouve que Michel Serres a lu beaucoup de science-fiction et qu'il est un expert dans le domaine. Et c'est là qu'on peut... Voilà. C'est pour cela qu'il n'est pas un homme de science-fiction, ni un homme d'anticipation. C'est un réel écrivain, ça, je suis d'accord avec lui, qui réellement invente. Alors bon, ça aussi, je suis d'accord avec lui. De conclure enfin que si Jules Verne a anticipé, c'est uniquement dans le domaine des sciences humaines. Je ne suis pas d'accord non plus, mais c'est important qu'il l'ait écrit, puisque la science n'est pas uniquement la science-fiction dans la science-fiction. Quelle magistrale contradiction dans le propos, quel désir d'effacement volontaire, car le moindre amateur, à défaut d'historien et de spécialiste, peut prouver que tout réel auteur de science-fiction invente réellement et spécule sur l'avenir en s'appuyant sur les sciences humaines. Dommage que Michel Serres ne s'en soit pas aperçu depuis 75 ans. Enfin, maintenant, il en a presque 80. Les successeurs de Jules Verne et de Wells ont produit de multiples chefs-d'œuvre qui ont eu le bon goût d'ignorer, comme certains nombres de ses confrères, et comme la plupart de ses confrères, comme on peut bien dire, la plupart des gens qui sont contre la science-fiction n'en ont jamais lu. C'est pratiquement une preuve qui est vérifiable à tout moment. Ce court voyage au centre de Jules Verne ne saurait être incomplet si de nouvelles révélations étaient intervenues depuis les années 50 grâce aux travaux de mon ami Charles-Noël Martin. Charles-Noël Martin était un physicien que j'ai très bien connu à l'Ivoire de la Balance dans les années 50-60, qui avait une faculté extraordinaire de montrer ce qu'était la physique, et avec une simplicité, il pouvait vous expliquer une équation d'Einstein avec une facilité extraordinaire. Depuis, j'ai oublié, mais enfin, à l'époque... Je comprenais fort bien. Et Charles-Noël Martin était un personnage complètement enfermé dans sa maison avec sa mère, et il ne lisait que Jules Verne. Et d'ailleurs, il a écrit un excellent ouvrage à ce propos, dans lequel il a découvert une quantité de textes complètement inédits et de manuscrits. Et d'ailleurs aussi, les travaux de François Raymond et de Daniel Compère sur la correspondance et les manuscrits. On sent peut-être depuis longtemps, sans de multiples interventions extraordinaires, extérieures, l'œuvre de Jules Verne ne serait sans doute pas celle que l'on connaît. En premier lieu, sous la férule de son éditeur, Jules Hetzel, qui se comporta durant sa vie entière comme un censeur impitoyable, intervenant sur les projets, les manuscrits, les épreuves, le harcelant jusqu'à modifier profondément les intentions première de l'auteur en cours d'échange houleux, parce que Jules Verne avait une véritable envie d'écrire de la science-fiction pure, et Hetzel, comme le disait tout à l'heure, était véritablement un censeur impitoyable. Il voulait écrire des livres pour les enfants qui soient parfaitement compréhensibles et dans lesquels la science soit d'abord le moteur essentiel. Il voyait dans les voyages extraordinaires sous l'angle du divertissement, récits d'aventure, paysages exotiques, situations exceptionnelles, certes, mais rien que la raison ne puisse justifier. Or, Si la raison est toujours là, il faut que la logique sache l'expliquer. Même la psychologie des personnages fait l'objet de débats contradictoires dont Verne ne sort pas toujours vainqueur, sauf lorsqu'il se révolte à propos du capitaine Nemo, qu'il voyait en terroriste à la nature généreuse. Parce qu'il ne faut pas oublier que, dans son premier temps, Jules Verne voyait le capitaine Nemo comme un héros de la résistance hongroise, je crois, et que Elzel ne voulait absolument pas qu'il y ait des problèmes politiques avec ses livres qui auraient pu baisser les tirages, et donc il l'a transformé en un Indien. Et ce qui était quand même un combat douloureux pour Jules Verne. D'ailleurs, Jules Verne qui lui écrivait « Vous voyez bien, je vois bien qu'à propos de Nemo, vous rêvez d'un bonhomme très différent du mien. C'est très grave, et d'autant plus grave que je suis parfaitement incapable de réaliser ce que je ne sens pas. Or, décidément, je ne vois pas le capitaine Nemo comme vous. Je ne saurais le faire autrement, écrit-il à Hetzel au terme d'un combat douloureux. » Parce qu'il voyait justement la part noire de Jules Verne, cette part sombre, le terroriste, le libertaire, l'homme absolu, celui qui voyait un changement de société, bien qu'il ait été complètement un personnage intégré à la société d'Amiens, qu'il était un notable. Fondamentalement, c'était un révolutionnaire profond et il essayait d'exprimer ces choses malgré Hetzel, et il était toujours empêché par Hetzel. Par exemple, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Michel Verne, son fils, qui, lui, a restitué la part secrète de Jules Verne. Bien qu'il y ait des rapports extrêmement conflictuels entre Jules Verne et son fils, il y avait des rapports intérieurs, et Michel avait bien compris la véritable pensée de son père. Et d'ailleurs, dans un roman qui s'appelle « Les Indes Noires », Verne imaginait une Écosse creusée par l'exploitation intensive du charbon, donc entièrement souterraine, avec un réseau complet de villes, des chemins de fer, navires parcourant une mer intérieure. Hetzel a complètement réécrit le manuscrit, il a réduit l'intrigue et le monde souterrain à une caverne de dimension convenable. On voit d'ailleurs que, dans la chasse aux météores, également, si on lit la première version de la chasse aux météores de Jules Verne, on a un roman un peu tristounet, une simple histoire, alors que Michel l'a transformé en une magnifique histoire de science-fiction. D'ailleurs, j'ai écrit une petite nouvelle à ce propos, et je crois que c'était très important de la faire, parce que on voyait ce mouvement qui existait à l'intérieur de Jules Verne, qui n'avait pas abouti complètement. C'est en cela que Michel était un personnage très important. Donc je parle de Michel, avec lequel il y a eu des rapports très très, très conflictuels. S'il lui servit d'assistant à la fin de sa vie, on l'accuse, je pense que M. Larieux l'accuserait volontiers, d'avoir transformé la plupart des œuvres posthumes. Lucien Boya, qui analyse avec subtilité l'œuvre et le personnage de Verne dans Le paradoxe d'un mythe, souligne que Michel fut parfois plus audacieux que son père, en particulier dans La chasse aux météores dont je parlais. L'invention de Ziffirin Xirdal et de son courant neutre hélicoïdal fit d'un texte satirique à ses termes un superbe roman de science-fiction. On le voit, l'affaire est très très loin d'être close. Tant de mystères et d'imprécisions pèsent sur la personnalité, les opinions, la philosophie, la sexualité, chose dont on parle peu à propos de Jules Verne, et ses influences. Il faudrait se donner rendez-vous pour le centenaire de sa naissance en 2028, afin de vérifier si nous ne serons pas retournés vers la barbarie éclairée au gaz, comme le redoutait ce sombre optimiste. Voilà ce que j'avais à dire. Je pense que je n'ai pas tellement changé d'avis. J'ai repris un peu ce qu'avaient dit les uns et les autres. Ce qui est intéressant chez notre ami chinois, c'est de voir que, non pas que la science-fiction française n'existe pas en Chine, ça n'a pas tellement d'importance. Il nous a révélé un auteur de science-fiction que personne d'entre nous ne connaissait. Ça serait intéressant d'ailleurs de le lire. Mais ce qui est très étonnant, c'est de voir que lui a repris les choses à la base, dans ce sens que pour lui, Jules Verne, et pour les Chinois actuellement, et pour le président actuel, c'est véritablement un écrivain, non pas un écrivain de science-fiction, mais un écrivain de la science. C'est-à-dire qu'il reprend les choses à l'envers et que pour les Chinois, Jules Verne, c'est celui par lequel la science adviendra, et non pas la littérature, mais véritablement quelque chose qui va complètement changer la société. Et je crois que là, par là, il rejoint quand même un peu Jules Verne, qui dans ses œuvres voulait aussi que la société change, puisqu'il inventait, à partir de choses existant déjà, des futurs que nous connaissons, que nous avons vécu et que nous vivrons encore. Et que pour moi, comme je le disais tout à l'heure, et qui n'est pas fini d'exister, je vois encore les choses changer et j'écris de la science-fiction qui, je crois, plonge très loin vers l'avenir. Par exemple, dans le dernier roman que j'ai écrit, non pas celui sur la Baie de Somme, mais Lothar Blues, j'ai repris un quatrième volume de l'ensemble que j'avais écrit sur l'Europe après la pluie, et dans lequel je ressuscitait quelque chose qui était abandonné dans la science-fiction, c'est-à-dire le robot. On voit que les Japonais s'intéressent beaucoup aux robots, ils en font des choses qui, à mon avis, ne sont pas très intéressantes. Et j'ai voulu montrer dans ce roman comment la présence des robots, s'ils existaient vraiment et s'ils avaient une subtilité telle qu'on leur accorde dans la science-fiction, on obtiendrait un monde extrêmement bizarre, extrêmement douloureux, extrêmement violent, parce qu'on obtiendrait d'une part des gens qui voudraient que les robots disparaissent pour que les êtres humains ne se consacrent plus au loisir, mais puissent retrouver leur vérité, c'est-à-dire le travail, l'invention, la vie, et devenir véritablement à nouveau des hommes, et d'autres au contraire qui pensent que c'est fini, il n'y a plus besoin de travailler, la douleur du travail qui a été la douleur permanente de l'homme doit disparaître, et c'est à travers la pensée que l'être humain de l'avenir doit exister. Et je crois avoir écrit un livre de science-fiction qui n'a aucun rapport avec tout ce qui a pu être écrit jusqu'à présent, et j'espère continuer encore par la suite à trouver des idées qui soient contraires à ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est-à-dire la science-fiction n'existe plus puisque tout a été inventé. Voilà. Oh, il doit en exister, oui, oui. Par exemple, il y a une grande science-fiction japonaise. Mais je me souviens très bien quand j'avais été au Japon, où j'ai lu 2-3 romans traduits, contrairement en Chine, j'avais rencontré le représentant de Libération à Tokyo. Et il m'avait dit que la science-fiction, en plus des bandes dessinées en grand nombre et de la littérature de bas étage, enfin d'aventure avec des nouveaux monstres, il y avait toute une école de science-fiction japonaise très importante. Et d'ailleurs, je crois que dans tous les pays du monde, il y a une école de science-fiction qui existait, plus ou moins connue. Quand j'ai été en Roumanie, par exemple, j'avais été donc tout à fait au bout de la Roumanie, dans un pays qui s'appelle Iași, qui est en Moldavie, c'est-à-dire la partie roumaine de la Moldavie. Et un ami d'enfance de Dominique Martel, qui était responsable du centre culturel de Iași, m'avait montré des tas d'auteurs de science-fiction roumains qui étaient là, qui avaient écrit des nouvelles. J'avais vu que des quantités de mes nouvelles ou de mes romans avaient été traduits sans que je le sache jamais, et ça avait été la même chose en Bulgarie, en Hongrie, etc. Donc on peut dire que si la science-fiction française n'a pas eu de succès en Chine, on peut dire que dans les pays d'Europe de l'Est, elle a eu énormément de succès. L'un des plus grands a été celui d'André Rouelan, qui, avec Tunnel, a été tiré à 1 million d'exemplaires en Russie. Voilà. Des questions? Pas de questions.
J'ai une question peut-être.
Comment?
Peut-être une suggestion pour une pensé au vernisseur, monsieur le corbelliste de Jules Verne.
Oui.
Pour le rajouter dans ce que tu disais tout à l'heure,
des références.
Ah
oui, les vers de là, les vers d'ici, j'ai vu. Oui, oui, oui.
Pour parler des vers d'ici, mais il n'y en a pas ici.
Ah, les vers d'ici, je sens mieux, je crois.
Ça passe bien.
Bon, je ne sais pas quelle heure il est.
Moins
j'étais un peu court, mais enfin,
l'horloge.
Après tout ce qui avait été dit.
Là, il faut commencer à poser.
Il y a un permets de couper ton micro.
C'est l'enregistrement de.
Il est coupé?
Non, il n'est pas coupé.